ce Dieu si glorieux, créateur des cieux et de la terre, il dit, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, pas le dimanche matin, pas les jours de difficulté, pas les jours de repos, tous les jours de ta vie. Et pourquoi ? De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Dieu est extrêmement formel. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Même si vous venez pour la première fois et si vous n'avez jamais veillé sur votre âme, vous ne savez même pas ce que c'est que votre âme, Dieu va vous parler ce matin et va vous dire « Veille à partir d'aujourd'hui, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. » C'est tellement vrai que si un chrétien oubliait ce verset et ne se mettait à veiller sur son âme qu'un jour sur deux, petit à petit, son âme ferait comme son corps s'il n'était nourri qu'un jour sur deux. Son âme dépérirait. Vous êtes d'accord avec cela? Si un chrétien disait « Ce matin, je sais que ce passage est vrai, que Dieu s'adresse à moi, il me dit « Veille tous les jours de ta vie. » Et si vous ne mettiez en pratique ce passage que de temps en temps, si vous étiez un peu indifférent, si le lundi, le mercredi et le vendredi, mettons un jour sur deux, vous étiez indifférent à l'égard de votre âme, sans vous en rendre compte, imperceptiblement, mais avec une efficacité redoutable, votre âme dépérirait, baisserait, perdrait le goût des choses de Dieu, votre communion avec Dieu se romprait, vos prières se raccourciraient, et petit à petit, vous arriveriez à croiser Dieu sans même le voir. C'est pourquoi Dieu dit, veille tous les jours de ta vie. Et si vous me disiez, eh bien frère Christian, vous n'avez que 15 secondes pour nous dire quel est le meilleur conseil que nous devrions suivre, que nous pourrions mettre en pratique. Voilà, veille sur ton âme tous les jours de ta vie. Veille sur ton âme. Lisons maintenant un deuxième verset, qui n'est pas moins joli que le premier, dans le psaume 23. Vous avez entendu parler du psaume 23 ? Le psaume 23, nous lirons le début du verset 3. Et là, il est écrit, « Il restaure mon âme. » C'est David, c'est un roi, mais avant d'être un roi, c'est un homme de Dieu, un homme qui aime Dieu. Et un homme qui met bien en pratique ce qu'il a lu dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9. David a fait une prière inspirée, prophétique, une très belle prière, et il dit, en parlant de Dieu, « L'Éternel est mon berger, il me dirige, il me conduit, il me fait reposer, je n'ai pas peur dans certaines circonstances, il est avec moi, mais le centre du psaume 23, le centre, le pivot central du psaume 23, c'est « Il restaure mon âme ». C'est tellement vrai, frères et sœurs, que le psaume 23 ne tient debout que si mon âme est restaurée. Je vous pose la question, est-ce que vous imaginez un enfant de Dieu dont l'âme n'est pas restaurée, en train de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous diriez « Mais c'est de l'inconscience ».« L'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, mon âme n'est pas restaurée. Mais il me conduit, je n'ai pas peur dans la vallée de l'ombre de la mort, il me sécurise, il est avec moi ». Vous pensez que ce serait une prière loyale ? Dites-moi, pensez-vous que ce serait une prière loyale de la part d'un enfant de Dieu de louer et de glorifier Dieu pour tout ce qu'il fait alors qu'il a laissé son âme dépérir. David dit « Il restaure mon âme ». Il n'a pas dit « Il a restauré mon âme ». J'ai fait une expérience naguère avec lui et il a restauré mon âme. Ça a été fait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis maintenant, on est passé à autre chose. Il restaure mon âme. On sent qu'il met en pratique ce passage de Deutéronome. Il veille attentivement sur son âme. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, que vous quittiez vos pensées, que vous oubliez vos pensées qui viennent, qui tournent. Vous êtes là et puis vous pouvez penser à la voiture qui déborde un peu sur la route, ah, vous êtes mal garé, vous pensez à quelque chose que vous avez laissé à la maison, vous avez des difficultés. Je voudrais que vous pensiez un peu à ce que je vais vous dire, que vous oubliez tout le reste, que vous fassiez un gros effort pour vous concentrer sur ce que Dieu est en train de nous dire, sur cette immense vérité de la Bible, une âme en ruine peut redevenir une âme restaurée. Alléluia. C'est possible, frères et sœurs. C'est possible. Une âme en ruine peut redevenir une âme restaurée. Parce qu'en fait, il n'est pas possible d'avoir son âme en ruine le lundi, restaurée le mardi, à nouveau en ruine le mercredi et restaurée le jeudi. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Ou notre âme est restaurée, ou notre âme est en train de se ruiner. Un peu comme un bâtiment que vous n'entretiendriez pas et que vous laisseriez dépérir, eh bien, petit à petit, la nature, la pluie, le vent, les tempêtes, les choses de l'extérieur feraient des dégâts dans cette maison, et puis dans 2 ans, dans 5 ans, elle ne ressemblerait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle deviendrait petit à petit une ruine. C'est vrai qu'une personne prise au hasard dans la rue, si l'on arrêtait la première personne qui passe et qu'on lui parle de son âme, elle nous dirait « Mais je n'ai aucune raison de m'occuper de mon âme. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est cela ?» Les gens s'occupent avec beaucoup d'attention et de vigilance de leur travail. Ils s'occupent de leur bien, de leur capital, de leur avenir immédiat. Ils s'occupent beaucoup de leur santé. Docteur, vite, vite, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. C'est normal. Mais ils négligent leur âme. C'est comme cela dehors. C'est comme ça dans le monde. Les gens n'ont pas de relation avec Dieu parce qu'ils négligent leur âme. Et comme leur âme est le seul capital qui leur permettrait d'être en relation avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu, comme leur âme est desséchée, comme elle est morte, eh bien, ils n'ont plus de relation avec Dieu. Tout est devenu pénible. La prière, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a des gens qui ne prient jamais. Jamais. Il y a des gens qui prient une fois par an, une fois par mois. Il y a des chrétiens qui prient vite fait. Ils disent bonjour au Seigneur, bonne journée, allez, à demain, on s'en va. On est pressé. L'âme, c'est quelque chose d'important. Veille sur ton âme, comme tu veilles sur ta santé, comme tu veilles sur tes biens, comme tu veilles sur ton portefeuille, comme tu veilles sur ton sac à main, comme tu veilles sur les choses de la vie qui ont des conséquences pour toi. Dieu dit, veille attentivement tous les jours de ta vie sur ton âme. C'est d'autant plus important que l'âme ne nous appartient pas. Ce que vous avez, votre voiture, peut-être vous pouvez dire, vous pouvez décider, vous dites, tiens, je la donne, je ne la veux plus, elle est à vous. Mais l'âme ne nous appartient pas, elle nous a été prêtée. Et Jésus a bien précisé, lorsqu'il était sur la terre, qu'un homme pouvait réussir, être entrepreneur et entreprenant, gagner, être admirable dans ses affaires, et rater tout, et tout rater dans sa vie, parce qu'il il réussit dans les affaires, mais il laisse son âme dépérir. Et Jésus a dit, il ne réussit pas. Et Jésus a bien dit que la nuit même qui va venir, peut-être, son âme lui sera redemandée. Et Jésus a bien dit, mais que servirait-il à un homme d'être immensément riche, de gagner toutes les choses du monde, de posséder toutes les choses du monde? Que lui servirait-il s'il perdait son âme? Pour Jésus, qui connaissait l'autre côté des choses, qui venait de l'éternité et qui nous annonçait les vérités, pour Jésus, le plus important, c'est notre âme. Notre âme ne nous appartient pas. D'abord, un corps sans âme n'existe plus. Un corps sans âme ressemble à un corps en très bon état, mais il est mort. Un corps sans âme est mort. Et Jésus a bien dit que la vie d'un homme ne dépendait pas de ses biens, même s'il était dans la plus grande abondance. La vie d'un homme dépend de ses relations avec Dieu. Votre âme à vous qui venez pour la première fois, est-elle en ruine ou est-elle restaurée? Votre âme à vous, chrétien, qui avait connu Dieu, qui connaissait Dieu, qui aimait Dieu, est-elle en train de dépérir? Ou bien mettez-vous en pratique ce que le Saint-Esprit dit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 9, « Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. » Les jours où tu vas au travail, les jours où tu es en repos, les jours où tu as beaucoup de choses à faire, les jours où tu n'as rien à faire, les jours où les nouvelles arrivent, les mauvaises nouvelles ou les bonnes nouvelles, les jours de réussite, les jours d'échec, les jours de réunion, les jours sans réunion, veille attentivement sur ton âme. Est-ce que je mets en pratique cela? Est-ce que c'est une chose que je considère? Est-ce que je dis mon âme n'a plus ses relations avec Dieu? Vite, il faut que je revienne vers celui qui restaure l'âme. Car il existe celui qui restaure l'âme. En fait, frères et sœurs, si vous faites un petit peu de marche arrière dans votre esprit, et si vous vous mettez tout seul, vous dites, mais depuis que je suis chrétien, combien de fois je suis revenu vers le Seigneur en disant, « Seigneur, je suis en mauvais état, restaure mon âme. » C'est pas vrai ça? Et combien de fois le Seigneur a restauré votre âme? Il restaure votre âme. Quand est-ce qu'une âme a besoin d'être restaurée? Christ est le réparateur des brèches. Christ ne restaurera pas votre âme sans votre accord. Que doit faire un chrétien qui réfléchit à tout ce que je suis en train de dire? Quand est-ce qu'une âme a besoin d'être restaurée? Quelqu'un va dire quand elle est en ruine. Oui. Des fois, vous passez devant une maison, vous dites, oh, ça a besoin d'être restauré, ça. Oui, vous le voyez. Votre âme a besoin d'être restaurée si déjà ça n'a jamais été fait. Si jamais vous ne vous êtes mis devant Dieu, si jamais vous n'avez cherché Dieu, si jamais vous ne vous êtes approché de Dieu, alors je vous le dis, votre âme a besoin d'être restaurée. Il y a même urgence. Votre âme a besoin d'être restaurée si vos relations avec Dieu sont rompues. C'est-à-dire que vous sentez que Dieu, c'est d'un côté et vous de l'autre. Ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas de relation avec Dieu. Ou des relations qui ne dépassent pas du tout les relations que vous avez avec vos propres voisins. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils ont même de meilleures relations avec leurs voisins qu'avec Dieu. Ça, c'est un signe, un indice qui me permet de conclure « Votre âme a besoin d'être restauré. » Si vous êtes dégoûté de la prière, il y a des gens, la prière, c'est quelque chose d'insupportable. Avant, ils priaient, ils prenaient le temps, ils se mettaient à genoux, ou bien ils s'asseyaient, ils fermaient les yeux, et ils prenaient un moment pour s'approcher de Dieu, pour prier Dieu. Mais avec les années qui sont passées, avec la détérioration de l'âme qui est venue, avec les dommages qui se sont créés dans l'âme, avec la ruine de l'âme qui s'est installée, maintenant les relations de prière sont mauvaises. On prie Dieu, mais on n'arrive pas à penser à ce qu'on dit. On prie Dieu, mais on se rend compte qu'on pense à mille autres choses. Et puis, quand on a fini de prier, on regarde, oh, ben, ça fait une minute que je prie. Ah bon, il n'y a qu'une minute. Il me semblait qu'il y avait 2 heures. Cela signifie que votre âme a besoin d'être restaurée. Si la place que vous donnez à Dieu est de plus en plus petite, c'est-à-dire que Dieu, vraiment, c'est la roue de secours, mais de plus en plus petite, si cela signifie que votre âme a besoin d'être restaurée. Car si Dieu est le Dieu de gloire, le Dieu de vie, le Dieu qui nous a donné un sauveur, le Dieu qui nous connaît, qui nous regarde, qui est là en ce moment, qui sait exactement à quoi je pense, à quoi vous pensez, qui sait toute chose, si ce Dieu est tellement vivant, et il est vivant, comme la Bible nous le dit, je ne peux pas lui donner de moins en moins de place. Et si je lui donne de moins en moins de place, c'est que mon âme a besoin d'être restaurée. C'est vrai, frères et sœurs, c'est vrai. On le répète souvent ici, mais c'est vrai. Les chrétiens de demain, les mauvais chrétiens de demain, j'espère que ce ne sera pas nous, que Dieu fasse que ça ne soit pas nous, les mauvais chrétiens de demain ne donneront pratiquement aucune place au Seigneur. Aucune. Quand on regarde dans une concordance, c'est comme un dictionnaire de la Bible où il y a tous les mots de la Bible et on cherche par exemple âme et on voit partout où il y a écrit le mot âme. Eh bien, on se rend compte que la Bible parle des âmes brisées, des âmes dans l'amertume, des âmes affamées. Il y a des âmes qui ont faim de Dieu, mais elles ne savent pas où est la nourriture. Des âmes découragées, des âmes languissantes, des âmes souffrantes. Quelqu'un a même dit « mon âme pleure de chagrin » ou « mon âme est éperdue, courbée parmi les lions, abattue, angoissée, dégoûtée de nourriture ». Ce sont des expressions de la Bible, cela. « Desséchée ». Même quelqu'un a dit « mon âme est attachée à la poussière ». Un autre a dit, mon âme est dans la terreur, en détresse, ébranlée, tourmentée, et même pire, il est même dit, mon âme est morte. Tout cela, tous ces qualificatifs, nous indiquent que notre âme a besoin d'être restaurée. Et alléluia, Christ est le réparateur des brèches. Le réparateur. Et je ne sais pas si vous le pensez comme moi, mais quand David dit « il restaure mon âme », il pense à tout à la fois. Il inclut tout. Il pense à des expériences faites malheureuses, des échecs terribles, des jours où rien n'allait. Il pense à tout ça. Il restaure mon âme. D'où que je vienne, quelle que soit la profondeur du trou, quel que soit le qualificatif de mon âme, il restaure mon âme. Christ veut restaurer votre âme, mes frères et sœurs. Et si la Bible dit « veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie », par ailleurs, Dieu prend tous les moyens pour que ce soit fait et pour que nous n'ayons pas de difficultés. Dieu nous donne tous les moyens. Christ est là, il est le réparateur des brèches. Je peux vous proposer 2 petites lectures. Si vous voulez bien venir dans Ésaïe chapitre 58, nous lisons le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. C'est prophétique sur un ministère extraordinaire. Ce que je voudrais vous montrer, c'est cette expression « les anciennes ruines ». Il y a peut-être quelqu'un qui va me dire « oh, moi, vous savez, il y a si longtemps que je ne m'occupe plus de mon âme que C'est même pas la peine que vous continuiez votre prédication, mon pauvre monsieur. Il y a si longtemps que mon âme est desséchée, que mon âme est morte. Il y a si longtemps que mon âme est en ruine. Que voulez-vous que Dieu fasse? Eh bien, moi, je lis dans la Bible les anciennes ruines, anciennes, seront rebâties. Dieu ne craint pas les anciennes ruines. Dieu ne craint pas le travail. Dieu ne craint pas la gravité des dommages. Regardez un petit peu plus loin, au chapitre 61 d'Ésaïe. Vous tournez deux pages. 61, verset 4. Les trois premiers versets, c'est une prophétie splendide sur Jésus qui viendra pour consoler, pour relever les affligés, délivrer les prisonniers, guérir, annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Et puis le verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? « Ils relèveront d'antiques décombres. » C'est-à-dire qu'il y a longtemps que les dommages sont là. Il y a longtemps que l'âme est affamée. Il y a longtemps que l'âme est morte. Il y a bien longtemps que rien n'a été fait, que cette âme est sans vie, qu'elle est négligée. Il y a bien longtemps. Mais même s'il y a bien longtemps, Christ est le réparateur des brèches. Oui. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Oui, jeune homme. Oui, monsieur qui venait pour la première fois, oui, Christ est le réparateur des brèches. Il a réparé mon âme, il répare l'âme de David, il restaure son âme, il veut restaurer la vôtre, quel que soit son état, quelle que soit la gravité de la ruine, quelle que soit l'ancienneté de la ruine, antique décombre, antique ruine. Grâce à Jésus-Christ, le miracle est possible. Et pourquoi il est possible ? Parce que Jésus-Christ a dit un jour, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste, mon âme est troublée, il a même dit. Mon âme est troublée. Vous savez que dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémané, quand Jésus a vu arriver sur son âme tous les péchés de l'humanité, quand il a accepté tout cela, quand il a vu qu'il se chargeait de tous les péchés de l'humanité, son âme était triste. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, ça veut dire qu'il croyait qu'il allait mourir là, dans le jardin, et qu'il suppliait Dieu de ne pas mourir parce qu'il voulait aller jusque sur la croix. Christ est mort pour nous. Christ a donné sa vie pour nous. L'âme de Christ a été chargée pour délivrer un autre. Il a même dit un jour, parce que David dit que l'Éternel est son berger, Jésus a même dit qu'il était le bon berger, et que contrairement à ceux qui venaient pour dérober, voler, détruire. Il y a des gens qui viennent dans le troupeau pour dérober, détruire, ravager. Lui, il venait pour que ses brebis soient dans l'abondance. Il veut restaurer votre âme. Il veut et il peut. Il en a pris les moyens. Il a payé pour que votre âme soit restaurée. Il a payé pour que mon âme soit restaurée. Merci Jésus. Merci. Il a voulu que votre âme soit sauvée. Et même si elle vient du fond de l'abîme, même si c'est du fond, du très fond de l'abîme que votre âme vient, eh bien Jésus est capable de restaurer parce qu'on l'appelle le réparateur des brèches. Alléluia. Oh, je ne voudrais pas que vous quittiez la salle en disant « c'était pas pour moi, je suis trop misérable, j'en ai trop fait, je suis trop loin, je suis trop enfoncé, la ruine est trop grande ». Ce que Christ a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Ce que Christ a fait pour nous, il peut le faire pour toi. Christ est le réparateur des brèches, il restaure notre âme. Et pourtant, je l'ai dit, je l'ai signalé, je vais le développer un tout petit peu. Christ ne fait pas ça automatiquement. Christ n'a pas dit, allez, 2006, 30 juillet, je restaure le monde entier. C'est fait. Non. S'il n'y a pas votre accord, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas votre prière, ce n'est pas possible. Je peux vous montrer un passage dans la Bible qui explique que Dieu peut faire n'importe quoi, à condition qu'il y ait quelqu'un qui le demande, à condition que l'intéressé le demande. Lisons dans le psaume 107, s'il vous plaît. Psaume 107, un très beau psaume. Par exemple, le verset 4. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim, ils souffraient de la soif. Leur âme était languissante. Ça, c'est des gens qui tournent en rond, sans Dieu. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il est écrit derrière ? Et il les délivra de leurs angoisses et il les conduisit par le droit chemin. Dieu voyait bien qu'ils tournaient en rond dans les déserts, qu'ils marchaient dans la solitude, qu'ils étaient seuls. Dieu voyait bien qu'ils souffraient de la faim, de la soif, qu'ils étaient dans la détresse. Mais quand Dieu voyait, il espérait qu'ils prieraient. Et quand dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel, Dieu est intervenu. Dieu n'interviendra grâce au ministère de Jésus-Christ que si votre prière monte de cette salle et dit « Ô Seigneur, restaure mon âme ». Toujours dans les mêmes psaumes, on peut aller au verset 10 par exemple. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ça, c'est des gens qui récoltent ce qu'ils ont semé. Ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Et alors, on les voit captifs dans les chaînes, dans la misère. C'est une image de la misère du monde, des gens esclaves du péché. Ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alors, la souffrance est venue, ils ont succombé, personne ne les secourait. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Dieu voyait bien qu'ils s'étaient révoltés. Dieu voyait bien qu'ils avaient juré contre lui, qu'ils n'avaient que des paroles négatives, qu'ils n'aimaient pas Dieu, qu'ils méprisaient Dieu, qu'ils haïssaient la parole de Dieu. Mais le jour où ils ont crié dans la détresse, Dieu est intervenu. Est-ce que c'est possible que la personne qui a le plus juré contre Dieu dans la ville de Toulouse et qui a le plus méprisé la parole de Dieu se mette à genoux maintenant et dise au Dieu, viens me secourir. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Vous croyez qu'il va se boucher les oreilles? Il va secourir. Dieu a besoin de votre accord. Dieu a besoin de votre prière. Dieu veut votre prière. Regardez le verset 17. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Encore des gens qui demandent à Dieu. Encore des gens qui ont fait une mauvaise expérience. Encore des chemins qui côtoyaient l'enfer. Encore des chemins qui s'éloignaient de Dieu. Et ce jour où les hommes ont prié, ont crié vers Dieu, ont dit « Seigneur, au secours, viens !» Dieu a restauré leur âme. Dieu veut restaurer votre âme. Frères et sœurs, tous les jours de votre vie, veillez sur votre âme. Que celui qui est debout, ça me rappelle une suite, ça. C'est l'apôtre Paul qui a dit « Que celui qui est debout sache qu'il ne tombera jamais. » Non, que celui qui est debout veille attentivement sur son âme tous les jours de sa vie. Debout, c'est-à-dire il a une vie avec Dieu. Il a une vie avec Dieu. Et que chaque chrétien dans ce lieu sache que qui que nous soyons, s'il regarde le pasteur, s'il regarde les anciens, s'il regarde des gens qui ont 30, 40 ans de conversion, qu'il sache que chacun fait la même chose. Il n'y a pas des privilégiés, des non-privilégiés. Chacun fait la même chose. tous les jours de notre vie, veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Pour revenir, pour se réajuster, pour se recentrer, pour ne pas s'éloigner, pour ne pas s'attiédir. Parce que l'attiédissement est le commencement de la froideur. On est bien d'accord. Tous les jours de ta vie. Et puis j'ai dit, un chrétien qui réfléchit à tout cela, que fait-il ? Quelle est la prière, quelle est l'attitude, la réponse d'un enfant de Dieu qui peut dire « Oui, il restaure mon âme ». Il l'a restauré hier, il restaure aujourd'hui, mon âme est en bonne santé parce que j'y veille, parce que Dieu m'a attiré mon attention et je veille sur mon âme. Que doit faire un chrétien ? Que peut faire un enfant de Dieu ? Certains pensent qu'ils régleront tout ça plus tard. Non, moi je m'occuperai de mon âme quand je serai vieux. Mais vous serez vieux quand ? Quand ? Peut-être jamais. Il y a des gens qui disent, moi je m'occuperai de mon âme au soir de ma vie. C'est quand le soir de la vie ? Beaucoup de gens, le soir de la vie n'est jamais arrivé. C'est au matin de la vie qu'ils sont partis. Et puis, je voudrais vous dire une chose qui est vraie, c'est que, en règle générale, plus une personne refuse Dieu, plus une personne fait attendre Dieu et néglige son âme, plus son âme s'endurcit et plus il y a de chances qu'au soir de la vie, elle ne pensera pas à prier pour l'état de son âme. Elle n'y pensera pas. Donc c'est aujourd'hui que vous, chrétiens, vous devez dire « Je vais veiller sur mon âme, comme je veille sur telle chose dans ma vie, comme je fais attention à ma santé, eh bien je vais veiller sur mon âme. » Mais ce n'est pas tout. On va regarder encore le psaume 107. J'espère que vous l'avez peut-être pas encore fermé, vous l'avez ouvert devant vous. On va commencer par le verset 1. Le psaume 107, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. C'est une image de gens qui étaient esclaves, enfermés dans les fers. Dieu a rompu tout ça, il les a rendus libres. Verset 21. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Verset 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Et verset 43. Lui, je vais le lire deux fois. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Que fait un chrétien qui réfléchit à ces choses ? Que fait un enfant de Dieu qui réfléchit et qui lit dans le psaume 23 « Il restaure mon âme, il loue l'Éternel, il loue l'Éternel, il loue l'Éternel, il loue l'Éternel, il le glorifie, il dit « Merci, tu as rafraîchi mon âme, tu as ramené mon âme ». Tu as pardonné mon âme, tu l'as remonté de l'abîme, tu as guéri ses blessures, tu as rompu ses fers, tu as enlevé ses servitudes, son esclavage. Tu es vraiment le réparateur des brèches de mon âme qui loue l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que nous allons louer l'Éternel maintenant? On va louer l'Éternel, on va glorifier Dieu. En fait, je vous ai dit deux choses ce matin. Je vous ai dit qu'il faut veiller attentivement sur notre âme tous les jours de notre vie. Et je vous ai dit qu'il est le restaurateur des âmes. J'en ai dit une troisième, qu'il loue l'Éternel. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait pour mon âme, je veux te dire devant tout le monde merci. Merci. Merci parce que tu es le réparateur des brèches. Merci parce que tu as réparé les dommages à mon âme. Merci parce que tu n'as pas fermé tes oreilles quand j'ai prié. Tu n'as pas été insensible lorsque j'ai supplié, lorsque j'ai dit « Seigneur, au secours !» Tu as eu pitié de mon âme. Et je peux dire comme David, « Il restaure mon âme. » Aujourd'hui, demain, hier, il restaure mon âme. Parce qu'il est le restaurateur de l'âme. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour mes frères et sœurs, merci pour tous ceux qui dans cette salle pourraient se lever et dire « Il a restauré mon âme ». Oh, que de fois, combien de fois je suis revenu à lui dans un état lamentable, il a restauré mon âme. Merci Seigneur pour ta fidélité, et je comprends lorsque ta parole dit qu'il loue l'Éternel. Qu'il loue l'Éternel, ceux qui étaient dans le désert, ceux qui étaient sur la mer, ceux qui étaient dans les chaînes, ceux qu'il a délivrés, qu'il loue l'Éternel. Ce matin, nous sommes venus pour te louer, Seigneur Jésus, pour te louer. Et je voudrais que toute cette église, d'un seul cœur, avec ferveur, avec passion, réfléchisse au fait que tu es le restaurateur, le réparateur des brèches, et que chacun te dise « Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, merci ». Ô Seigneur, merci que ta présence nous attire maintenant, que ta présence imprime en nous ce que nous venons d'entendre, que ta présence nous donne de la mémoire pour nous en souvenir, afin que ce soit là l'ordre et l'obligation première de toute notre vie. Veillez sur notre âme, veillez sur notre âme tous les jours de notre vie. Seigneur, merci. Merci pour chaque frère et sœur, merci pour chaque enfant qui un jour t'a dit « Oh, aie pitié de moi !» Merci pour chaque mourant qui un jour t'a dit « Aie pitié de moi !» Merci pour chaque enfant de Dieu qui un jour est revenu et a dit « Oh Seigneur, aie pitié de moi !» Tu restaurais les âmes, tu restaures encore. Oh, merci, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Louons le Seigneur, frères et sœurs.